Nous sommes passés par des moments de difficulté, des moments de souffrance. Nous venons d'entendre le témoignage de notre frère Axon. Cette semaine, j'ai reçu l'appel téléphonique aussi d'un de mes meilleurs amis, Robert, qui va fêter son anniversaire très bientôt, ses 60 ans très bientôt. Et on vient également de découvrir un cancer. Et nous passons tous par des moments de difficulté, des moments de souffrance. Et alors que j'étais dans mon bureau, que je priais pour la maman d'Axon, pour mon ami Willy, pour d'autres, le Seigneur m'a remis en mémoire ce texte que nous connaissons tous, mais que j'aimerais rappeler ce matin, et que nous trouvons dans Romains 8. Au chapitre 8, au verset 18, voici ce que l'apôtre Paul nous dit. Romains 8, à partir du verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui lui a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité ? Le péril, l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous prions. Notre Dieu, notre Père, merci de nous réunir en ta présence. Merci parce que ce matin encore, tu veux nous révéler ton amour, nous faire connaître ta volonté. Et nous voulons te demander maintenant, Seigneur, de faire taire en nous toute autre voix que la tienne. C'est toi et toi seul que nous voulons entendre. Ouvre nos cœurs maintenant au nom de Jésus. Amen. Je ne vous cacherai pas, frères et sœurs, que la question la plus difficile à laquelle nous puissions être confrontés demeure celle de la souffrance. Parce que la souffrance ne se pose pas en termes de théorie, mais la souffrance se pose comme une déchirure de notre âme. Comme tout pasteur, j'ai parfois sonné à des portes en espérant que cette porte ne s'ouvre pas. Parce que je savais que derrière cette porte, il y avait la souffrance. Et la souffrance des autres, c'est effrayant. À la fin du livre de Job, Dieu appelle Job son serviteur. Malgré toutes les épreuves, Job est resté serviteur de la gloire de Dieu. Et le Seigneur déclare, « Job a parlé de moi avec droiture. » Voici l'objet de ma méditation ce matin. Dans la souffrance, je veux parler de Dieu avec droiture. Quand mon frère, quand ma sœur souffre, quand je suis assis à côté de celui ou de celle qui souffre, je veux parler de Dieu. Mais je veux parler de Dieu avec droiture. C'est là, me semble-t-il, l'enjeu essentiel de l'accompagnement des personnes dans la souffrance. Et je dis en tant que pasteur que c'est l'une des parties les plus exigeantes du ministère pastoral. Au sein de la souffrance, parler de Dieu, dire Dieu sans le trahir. Parler de Dieu, dire Dieu sans le travestir, sans ces tentatives d'explication qui ne disent qu'à la limite notre sagesse humaine. Parce que la souffrance, les souffrances véritables, celles que provoquent des morts injustes, prématurées, des maladies odieuses, des trahisons honteuses, toutes ces souffrances agressent notre foi. Elles nous agressent corps, âme et esprit. Alors, se lèvent-nous des questions effrayantes? Alors se lève en nous la tentation. La tentation pour ne pas perdre la face, pour être utile. Aussi parce que j'ai honte de rien n'avoir à dire. Oui, naît en moi la tentation inconsciente de bricoler avec Dieu. de dire n'importe quoi. Le but, c'est de combler un vide, d'essayer de raisonner, de trouver une consolation dans un ordre logique, dans une pseudo-justice immanente. Et ce faisant, je trahis Dieu. Parce que je réduis Dieu à une idole, un espèce de porte-bonheur qui vient de tomber en panne. Et dans le texte que nous venons de lire, que le Seigneur m'a remis en mémoire cette semaine, Paul témoigne. Et le témoignage de Paul est empreint d'une profondeur spirituelle, d'une densité de foi qui nous éclaire sur nous-mêmes, mais qui nous éclaire aussi sur Dieu. Parce que, disons-le franchement, disons-le tout net, nous voudrions tous et toutes regarder la souffrance comme une anomalie, regarder la souffrance comme un accident exceptionnel, inadmissible. Nous le voyons comme un défaut dans la souveraineté divine. Or, qu'avons-nous lu ? Je n'ai rien inventé. Paul nous dit, je cite, « La souffrance est normale. Elle appartient encore au cours de ce monde. » Et Paul nous rappelle ce que nous voudrions toujours oublier, c'est en espérance que nous sommes sauvés. C'est une espérance certaine, solide, ferme, inébranlable. C'est un salut définitif que Jésus-Christ a acquis par sa mort sur la croix. Mes frères et sœurs, il faut nous souvenir que ce salut, nous ne le vivons pas encore dans sa pleine dimension. Il y a le déjà de notre salut, mais il y a encore le pas encore. Nous appartenons à cette création soumise à la vanité. La vanité du verset 20, ici comme dans l'Ecclésiaste, signifie la fragilité, signifie ce qui est éphémère, ce qui doit disparaître. Alors je dis, oui, il vient ce monde où il n'y aura plus ni douleur, ni cri, ni deuil. Mais aujourd'hui, les premières choses n'ont pas encore disparu. Et dans ce monde, il nous faut faire avec deuil, avec cri, avec douleur. Il nous faut souffrir. Le païen peut espérer passer au travers, avoir la chance en jouant la carte de l'individualisme. Mais gare à lui si la vie le rattrape. Mais pour nous qui sommes en Christ, nous ne pouvons pas échapper à la souffrance. Nous sommes exposés à toutes les souffrances auxquelles sont exposés tous les hommes. Et je dirais qu'en plus, nous sommes solidaires les uns des autres. Nous portons et nous partageons les souffrances du corps de Christ. J'aime cette phrase de C.S. Lewis qui dit dans ses livres « Un chrétien qui ne connaît pas les morsures cruelles de la vie, c'est un chrétien qui ne s'est pas suffisamment approché de ses frères et de ses sœurs. C'est un chrétien qui n'a jamais porté leur fardeau. C'est un chrétien qui n'a jamais rien partagé. C'est un chrétien qui n'a jamais accompagné personne. » Avec une réelle persévérance et une réelle proximité. Et je dis, moi, qu'il n'est pas juste de présenter la vie en Christ comme d'une manière de se mettre à l'abri des coups durs. Être en Christ, c'est avoir une espérance plus forte que la mort. Mais ce n'est pas échapper à la mort. Les souffrances dont Paul parle sont liées à son ministère. Et nous le savons tous, combien Paul a souffert dans son ministère. La persécution, les naufrages, les agressions. Mais sachons que toute souffrance véritable, c'est une souffrance de témoignage. Puisqu'il nous faut crier, il nous faut hurler dans ce monde que Dieu est juste, que Dieu est bon, quand tout proclame l'inverse. Et Paul affirme qu'il n'y a pas de commune mesure entre la souffrance que nous vivons aujourd'hui et la gloire qui nous attend. Et ce n'est, je le crois, ni par légèreté, ni par inconscience, mais par une conviction profonde, née d'une expérience intime avec le Christ. Et je voudrais relever 3 points. Je voudrais relever ce que l'apôtre Paul dit au verset 17. Nous sommes enfants de Dieu, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, glorifiés avec lui. Mais voilà, il y a une condition. Et la condition, frères et sœurs, elle est écrite noir sur blanc. Si toutefois nous souffrons avec lui. Et des gens viennent me voir pour que Dieu les débarrasse de leurs souffrances. Quelqu'un m'a dit l'autre jour dans mon bureau, « Je sais, pasteur, que si vous priez pour moi, il vous exaucera, vous, parce que vous êtes pasteur. » Et les gens viennent me voir pour que je les débarrasse de leurs souffrances. Mais comment ? Comment, frères et sœurs, puis-je leur dire, sans être odieux, qu'ils doivent souffrir avec Christ ? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de souffrir à cause de Christ. Si je souffre à cause de Christ, il y a là, je dirais, un élément qui est consolant. Notre souffrance pour Christ a un but, une espérance, une justification d'utilité. Le résistant pendant la guerre, qui acceptait la torture, il l'acceptait parce qu'il savait qu'un jour son pays serait libéré de l'occupant. Persécuté à cause de ma foi, il me reste, je dirais, un élément d'utilité auquel je vais m'accrocher de toutes mes forces. Mais souffrir avec Christ. Ici se pose la question de la signification de notre fraternité avec Christ. Que signifie être frère de Jésus-Christ ? Nous savons qu'il n'a pas honte de nous, et il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Souffrir avec Christ parce qu'il est notre frère, c'est souffrir sans jamais renier le Père. Même quand en nous la prière ne discerne plus son chemin, je ne sais plus quoi demander dans ma prière. Dois-je demander la guérison, la délivrance ? Certains d'entre vous le savent. Quand dans la nuit, l'infirmière nous a appelés pour dire « Il faut venir maintenant, votre père va mourir. » Nous avons, avec mes frères et mes belles-sœurs, et Joël, pris la voiture. Et maman nous a dit « Mes chéris, on va se donner la main, on va prier maintenant. » pour que Dieu guérisse papa. Et on a prié, Dieu guérit papa. Et on a prié de 2h30 jusqu'à 6h du matin. Et à 6h du matin, j'ai lâché la main de maman et je lui dis, maman, je vais me coucher, j'en ai marre. Et elle m'a dit, mon chéri, reste. Et je lui dis, non maman, Si Dieu voulait guérir papa, il y a longtemps qu'il l'aurait guéri. Alors continuez à prier si vous voulez, moi je vais me coucher, j'en ai marre. Alors maman m'a rejoint dans le couloir et m'a dit une chose que je n'oublierai jamais de ma vie. Elle m'a dit, mon chéri, reste maintenant, on va prier une dernière fois. Et je lui dis, ok maman. Et je me rappellerai toute ma vie qu'on s'est donné la main au chevet de papa et que maman a prié. Et qu'elle a dit, Seigneur, tu sais que nous voudrions papa reste, mais nous voulons maintenant ta volonté. Si c'est ta volonté qu'il vive, lève-le maintenant. Si c'est ta volonté qu'il parte, prends-le maintenant. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais je vous certifie devant Dieu qui est vivant que la machine s'est arrêtée automatiquement et que papa est parti. Qu'est-ce qu'il faut demander ? La guérison ? La mort ? C'est mon deuxième point. La souffrance débouche toujours sur une prière qui est une prière impossible. Parce que nous ne savons pas ce qu'il convient de me demander à Dieu. La vie, la mort, la conversion, la guérison, tout, rien. Je ne sais pas. La souffrance nous met à nu. La souffrance nous révèle notre faiblesse. Car il ne s'agit pas seulement d'ignorance. Parce que cette ignorance, nous ne savons pas. C'est le signe d'une faiblesse. Une ignorance, ça s'éclaire et ça disparaît. Mais une faiblesse, nous la porterons. Nous la porterons jusqu'à la résurrection. Et je crois que c'est cela que nous portons comme trésor de salut dans des vases de terre. Reconnaître cette faiblesse, c'est accepter que l'Esprit Saint soit notre secours. Rappelons-nous qu'il sonde nos cœurs, qu'il intercède pour nous, qu'il est notre avocat. Quand nous n'avons plus de voix, quand tu n'as plus de voix, quand je n'ai plus de voix, quand ta cause est désespérée, quand nous ne savons plus comment nous défendre, alors la souffrance est libératrice, puisqu'elle m'assure que le Saint-Esprit maintenant intercède pour moi. Alors, je peux vivre ma souffrance. Je peux partager ta souffrance, parce que ce qui compte, ce n'est pas ma force, ce n'est pas ma sagesse, ce n'est pas ma capacité de répondre à toutes vos questions, ce n'est pas le diplôme que j'ai accroché, mais ce qui compte, c'est l'intercession du Saint-Esprit. Il est notre avocat, notre consolateur. Et puis je termine. Il y a cette déclaration que nous connaissons tous. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est là une promesse. C'est là une consolation puissante. Mais je vous avoue, frères et sœurs, je vous avoue humblement, je suis coupable. Je suis coupable de l'avoir galvaudé, transformé en une sagesse bon marché, demain justifiant aujourd'hui. J'en ai souvent fait dans mon ministère une réponse facile, une formule creuse pour faire taire la souffrance. Mais faire taire, est-ce que c'est consoler ? Le bien dont il est question ici, c'est d'abord l'assurance toujours plus forte que l'amour de Dieu ne se relâchera jamais, que ce qui voudrait en nous nous faire renier Jésus-Christ, souvenez-vous de la femme de Job, maudit Dieu et meurt. Cela même nous fera glorifier son nom. La souffrance coopère ainsi à notre bien malgré elle. Elle voudrait nous détacher du Christ, mais par le Saint-Esprit, elle nous rend encore plus précieux. La souffrance voudrait nous faire dire n'importe quoi, nous détacher de notre espérance. mais elle ne le peut pas. Car l'amour de Dieu versé dans nos cœurs demeure plus fort que toute cette puissance de destruction. Alors avec Paul, nous confessons qu'au travers de toutes les épreuves, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et que l'amour, rien ni personne, ne pourra nous séparer, nous arracher de l'amour de Dieu. Désormais, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Amen. Seigneur, pour ta présence dans nos vies, merci. Pour la consolation que tu nous accordes, merci. Pour les souffrances que nous vivons, merci de la partager avec nous. Seigneur, tu sais tout de nous-mêmes. Tu sais au plus profond de nous-mêmes combien nous t'aimons. Et malgré cette souffrance qui voudrait nous faire renier le Père, nous confessons que nous t'adorons et que tu es maître de toutes choses. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Et béni sois-tu, parce que nous savons que rien ne nous séparera de ton amour. Merci. Amen.